VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. En RDC, la marche de l'opposition à Kinshasa pour exiger le respect des délais constitutionnels pour la tenue de la présidentielle censée avoir lieu cette année a donné lieu à des heurts à la mi-journée entre policiers et manifestants. Les forces de l'ordre ont tiré des grenades lacrymogènes contre les quelques 5000 protestataires qui lançaient des pierres contre les policiers et les gendarmes sur le boulevard du 24 novembre, grande artère du nord de la capitale. La police a finalement chargé la foule pour disperser les manifestants. Pourtant, les cadres de la dynamique pour l'unité d'action de l'opposition avaient lancé hier soir un appel urgent à la discipline et au respect du bien d'autrui pendant la marche. Les détails avec notre confrère Walter Kungui de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
À l'issue de cette réunion de dernière heure, des consignes ont été données et des dispositions ont été prises pour éviter tout débordement. Joseph Olengankoy est cadre de la dynamique.
Nous serions encadrés par la MONUSCO et la police nationale. Nous en appelons tous les Congolais de venir avec le drapeau national qui sera le signe de l'unité de la patrie.
Albert Fabrice Pouella, modérateur de la dynamique, en appelle à la discipline de tout un chacun.
Nous avons tenu une séance de travail avec monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, à laquelle était associée l'inspection provinciale de la police ainsi qu'une grande délégation de la MONUSCO. La marche est autorisée par l'autorité de la ville. Il nous revient d'attirer votre attention qu'on ne casse rien, qu'on ne provoque personne. C'est une marche patriotique. C'est le début d'un long processus de lutte. Pour que nous puissions bien continuer, il nous faut de la discipline. Nous amènerons nos parents, y compris même nos enfants.
Il faut noter que ce sont jointes à cette marche, les forces du progrès de François Belchika.
Walter Nkoui de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Centrafrique maintenant, l'ex-coalition Séléka qui avait renversé le président François Bozizé en mars 2013 avant de céder le pouvoir à la transition dirigée par Catherine Samba-Panza est aujourd'hui divisée en plusieurs factions de groupes politico-militaires dont certains continuent de commettre des exactions dans le centre et le nord du pays. Quel regard porte-t-on sur cette ancienne alliance rebelle 3 ans après ? La réponse de Dieu merci Lazare Njader Kangang, président du collectif 236 du kilomètre 5 à Bangui, au micro de Félix Sepassi Zembrou.
J'habite Bangui, particulièrement dans la contrée du kilomètre 5. Qu'est-ce qu'on peut dire de la coalition Séléka que leur division interne? Il y a quelques jours, on entend des informations parties par là, il y a un semblant de coalition et autres. Bon, voilà tout ce qu'on a comme bride d'informations.
Peut-on dire que cette ex-coalition représente encore un poids dans le pays?
Pour répondre vraiment à cette question, il faudra avoir peut-être les instruments de mesure, hein, des mesures pour juger de la représentativité d'une entité comme l'ex-coalition Séléka. Je suis très mal placé pour juger de leur représentativité. Mais à partir de la contrée dans laquelle je me trouve, c'est-à-dire du kilomètre 5, eh ben, pour moi, la Séléka, bon, c'est un mot, c'est un nom, voilà. Mais ça n'empêche pas les centrafricains de vaquer à leurs occupations. Ça n'empêche pas le kilomètre 5, par exemple, de vaquer à ses occupations et de vivre en paix. Voilà.
Oui, autre chose, Lazare Njader, que signifie pour vous le fait que cette ex-coalition ne soit pas représentée au gouvernement de Sarandji?
Vous savez, il y a eu les élections. Les nouvelles autorités sont en place et il appartient à ces nouvelles autorités-là de pouvoir faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que la paix et la paix définitive puissent revenir en Centrafrique. Pour que cette paix revienne, eh ben, il faut discuter avec tous les protagonistes, du moins ceux qui ont des revendications à porter. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas représentés au gouvernement? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas représentés dans le cabinet présidentiel? Vraiment, je suis très mal placé pour, encore une fois, répondre à cette question, parce que je ne suis pas du côté de ceux qui dirigent. Hein, donc, je suis très mal placé pour répondre à cette question. Mais nous écoutons, comme tout autre, à la radio, que voilà, ils ont des revendications, ils veulent avoir leur place au gouvernement, ils veulent avoir leur place dans le cabinet présidentiel. Qu'est-ce qui fait que on ne leur répond pas à cette préoccupation, vraiment, je suis très mal placé pour répondre à cette question.
Cette coalition est-elle représentée au sein de la nouvelle Assemblée nationale?
En tant qu'entité ex-Séléka, moi, je n'ai pas entendu des députés élus qui siègent à l'Assemblée. Je n'ai pas entendu dire qu'un député se réclame de l'ex-coalition Séléka. Voilà, quelqu'un ne s'est pas présenté aux élections comme étant candidat de l'ex-coalition Séléka. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas un député à l'Assemblée qui répond de l'ex-coalition Séléka. Voilà ce que je puis vous dire.
Dieu merci, Lazar Ndjadé Kangang, président du collectif 236 du kilomètre 5 à Bangui, en RCA. Ouganda, le fils du président ougandais Yoweri Museveni au pouvoir depuis 30 ans, dément vouloir succéder à son père à la tête du pays. Muzi Kaine Kurugaba, qui s'exprimait hier après avoir été promu du rang de général de brigade à celui de général de division en charge du commandement des forces spéciales, s'est déclaré content d'être dans l'armée, selon le quotidien gouvernemental New Vision. Et toujours en Ouganda, la justice a reconnu coupable ce jeudi les accusés dans le procès de 13 auteurs présumés du double attentat qui avait fait 76 morts le 11 juillet 2010 à Kampala. Une attaque revendiquée par les islamistes somaliens Shebab affiliés à Al-Qaïda.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Burkina Faso, le parti du président Roch Marc Christian Kabore a remporté les élections municipales de dimanche selon des résultats provisoires globaux publiés hier soir. Les résultats définitifs seront prononcés par le Conseil d'État après la période de contentieux ouverte pour une semaine. Écoutez la réaction de militants du parti au pouvoir après le succès du MPP.
Franchement dit, c'est une joie pour le MPP. On compte beaucoup sur le peuple qui a renoué sa confiance à notre parti et plus précisément au président Roch Kabore pour qu'il puisse vraiment mener à bien le bateau burkinais.
Libéria maintenant, le Conseil de sécurité de l'ONU a finalement levé les dernières sanctions pesant sur le pays 13 ans après la fin de la guerre civile au Libéria. Les détails avec Jacques Aristide.
Le régime de sanctions visait notamment à lutter contre le trafic de ressources naturelles ou geler les avoirs de certains individus. Également, dans l'arsenal, un embargo sur les armes destinées aux acteurs non étatiques et l'obligation pour le gouvernement du Libéria de notifier à l'avance ses achats d'armement. La résolution mettant fin aux ultimes sanctions a été votée à l'unanimité par les membres du Conseil de sécurité qui saluent les progrès constants du gouvernement libérien dans la reconstruction du pays, mais l'invite tout de même à adopter rapidement une législation sur les armes et à mieux contrôler ses frontières. Les États-Unis qui avaient mis au point cette résolution se sont félicités de la levée des sanctions. Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, trouve que cette décision est une preuve supplémentaire des progrès importants accomplis par le Libéria et la sous-région pour maintenir la stabilité.
Actualité hors d'Afrique, les dirigeants des grands pays industrialisés arrivent en ordre dispersé au Japon pour le sommet du G7. Réunion centrée sur les défis de la croissance mondiale, du terrorisme et des migrations qui débutent aujourd'hui. Maïli Segel.
Barack Obama est arrivé mercredi soir. Il fera une visite à Hiroshima après le sommet. Une première pour un président américain dans cette ville bombardée à l'arme atomique par les États-Unis en 1945. Monsieur Obama aura un entretien avec le premier ministre japonais Shinzo Abe. Ce dernier a également rencontré mercredi le premier ministre britannique David Cameron, dont le pays suscite les inquiétudes du G7 à l'approche d'un référendum le 23 juin sur une possible sortie de l'Union européenne. La faiblesse de la croissance mondiale occupera une place de choix pendant ce sommet du G7, qui doit également adopter un plan d'action contre le financement du terrorisme. La délégation française a fait ajouter une réunion prévue jeudi sur la préservation du patrimoine culturel face aux agressions terroristes. Après les destructions des trésors de Tombouctou, du musée de Mossoul, des vestiges de la cité de Nimroud et des temples de Palmyre. Enfin, le thème de la migration et des réfugiés a été mis à l'ordre du jour à l'initiative de l'Allemagne.
Et toujours concernant le sommet, le G7 doit adopter une position claire et dure sur tous les différents territoriaux, qu'il s'agisse de l'Ukraine ou des mers de Chine méridionale et orientale, a déclaré aujourd'hui au Japon le président du Conseil européen Donald Tusk. L'Allemagne, pour sa part, a estimé, au contraire, par la voix de son chef de la diplomatie, que la reconduction des sanctions de l'Union européenne contre la Russie sera plus difficile cette année en raison d'une résistance accrue de certains pays membres. Par ailleurs, Pékin et Tokyo se disputent âprement la souveraineté des territoires inhabités en mer de Chine orientale. Pékin revendique aussi la quasi-totalité de cette mer et crée même des îles artificielles. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.